Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et cette semaine encore une fois, on va parler d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzée. Cette semaine, on va regarder un peu l'OVNI en tant que tel. Si on se décide de casser le moule, dans le fond, le titre de l'épisode cette semaine, de la chronique cette semaine, ça pourrait être ça. Et si on cassait le moule? Parce que aujourd'hui, on ne peut plus parler vraiment de l'OVNI type, tu sais, la soucoupe volante elle-même, même si c'est encore un terme qui est généralement utilisé pour décrire ces fameux objets volants non identifiés, ça ne suffit plus à cette heure pour décrire vraiment la chose. Mais cette semaine, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. On va regarder c'est quoi l'OVNI type de la soucoupe volante jusqu'au triangle. J'ai souvent dit que l'OVNI de 1950 ressemble encore beaucoup à celui d'aujourd'hui, puis ça, c'est très vrai. Par contre, les formes également sont de plus en plus diversifiées de nos jours parce que le témoin, en général, est plus au fait de la technologie qu'avant. Autrement dit, son bagage technologique, même de connaissances populaires, est plus évolué ou plus complet qu'avant, même si c'est personne qui fait des recherches vraiment. T'sais. Pour cette raison-là, la représentation de ce qu'il a vu, c'est plus détaillé. Toutefois, si on étudie attentivement les rapports d'observation d'OVNI, on peut juste constater, par contre, une constante flagrante au niveau des formes, puis ça dure depuis le début. T'sais, de l'observation de Kenneth Arnold à celle de Bob Hicks la semaine passée, tout le monde décrit son observation uniquement armée de son propre bagage personnel, puis ça c'est évident, t'sais, je veux dire. Mais plus que le témoin sera au fait de la technologie, plus son témoignage sera intéressant et détaillé, c'est évident. Malheureusement, on peut également voir que beaucoup ajoutent certains détails par déduction, ce qui ne correspond pas nécessairement toujours avec la réelle observation. Puis ça, c'est réellement fait sans malice de la part du témoin. Là. Tu sais, je veux dire, c'est involontaire. Mais plus souvent qu'autrement, on est dans le « je pense que » dans le fait définitif. Puis ça, c'est normal, même si c'est un peu dommage, parce que habituellement, une observation d'OVNI, ça dure juste quelques secondes, tu sais. Puis dépendamment, le degré d'émerveillement, pour pas dire le degré d'énervement, c'est ça qui va faire en sorte que notre cerveau peut nous jouer souvent quelques petits tours, puis sans le savoir, puis ça, c'est normal. Juste pour le fun de même, connaissez-vous quelqu'un qui voit tout le temps toutes sortes de choses dans les nuages, le feuillage, etc.? Ça montre une grande imagination, tu sais. C'est pas nécessairement mauvais. Mais devant l'inconnu, puis sous l'emprise du stress, il est fortement possible que ce style de personne-là ajoute sans le vouloir certains détails, puis ça, c'est sans le vouloir, comme je viens de dire, mais souvent aussi sans le savoir. Parce que notre cerveau a réellement horreur du vide. Puis devant l'inconnu ou l'absence de logique, notre cerveau va nous renvoyer un signal d'une forme connue pour nous stabiliser, tu sais, pour instaurer une certaine de logique dans ce qu'on voit. Puis ça, c'est normal, puis c'est de même pour tout le monde, tu sais. Lorsque la forme parfaite d'un visage de chien, exemple, se trouve dans un nuage, c'est juste de la superposition d'images, souvent, tu sais. Regarde, comme moi, personnellement, ma femme, elle voit toujours plein d'affaires dans les nuages, mais moi, je vois jamais rien, tu sais. C'est pas parce qu'elle est folle, c'est juste parce qu'elle a une super puissance forte et forte imagination, tu sais. Donc, il faut garder à l'esprit qu'un témoignage, c'est bon, mais toujours dans certaines limites, parce que c'est de l'interprétation, dans le fond. Pour rajouter là-dessus, si on part du principe que quand on voit quelque chose qu'on connaît pas, on l'interprète, ben on peut facilement comprendre l'évolution des récits d'observation d'OVNI depuis le début du 20e siècle. T'sais. Vers la fin du 19e siècle puis du début des années 1900, on retrouve plus souvent qu'autrement des descriptions de vaisseaux volants majoritairement décrits comme ressemblant à des cigares de forme allongée. Quand il y a eu l'arrivée des dirigeables, ben là, ça a changé un peu la donne parce que là, le monde a vu d'autres choses, mais là, on les décrit plutôt comme des ballons de forme allongée sans devant ni derrière. Mais il y a un fait surprenant là-dedans, par exemple, c'est qu'il existerait une photo de ce style d'engin, puis c'est probablement la première photo d'OVNI de l'histoire. Tu sais, c'est vieux. Par contre, comme d'habitude, il y a certains qui disent qu'il s'agirait plutôt d'une illusion d'optique créée par la superposition de certains instruments de mesure lors de la prise de la photo. Mais tu sais, c'est, plus ça change, plus c'est pareil. Tu sais, je veux dire, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait autant de sceptiques qu'aujourd'hui. Puis du monde qui était oui, encore autant qu'aujourd'hui. Donc, c'est toujours le même débat, dans le fond, depuis des centaines d'années, tu sais. Mais la photo daterait de l'hiver 1870-1871 et aurait été prise par Amos Clark et Howard Kimball lors d'une expédition météorologique. On voit clairement sur cette photo-là un objet de forme allongée, très foncé, sur un arrière-plan de gros nuages blancs. Vous l'avez certainement déjà vu cette photo-là parce qu'elle circule dans certaines émissions d'OVNI souvent. Puis la photo résiderait désormais dans les fichiers de la Bibliothèque publique de New York. C'est intéressant de mentionner parce que on voit vraiment sur cette photo-là un objet foncé, long. Ça n'a pas de l'air à se déplacer, mais tu sais, je veux dire, une photo qui date de 1870, là, regarde, c'est pas du HD, là, tu sais. Mais c'est quand même la première photo de l'histoire qui montre un phénomène aérien non identifié, même si ça peut être finalement, comme ils disent certains, une superposition d'images involontaires, parce qu'ils disent que ce serait une superposition d'images involontaires. Mais ça, regarde, l'histoire est là, puis on le sait pas, tu sais. Si on fait un bond en avant là, de une soixantaine d'années, si on peut dire, là, avec le cas de Kenneth Arnold. C'est réellement avec lui que l'expression « soucoupe volante », ça prend son envol, parce qu'il décrit les objets comme des chevrons ou des boomerangs se déplaçant à très grande vitesse. Sa description soulignait que les ovnis semblaient voler de la même façon que lorsqu'on tire une roche sur l'eau, là, tu sais, là, ou une soucoupe. L'expression a été immédiatement reprise par la presse, puis c'est de là l'origine de la notion « soucoupe volante ». Qu'est-ce qui est intéressant de voir, par contre, là-dedans, c'est que à l'époque, le mot « triangle », ça ne fait pas partie du vocabulaire, même si la description d'Arnold, c'est des chevrons, tu sais, des chevrons ou des boomerangs. Tu sais, un chevron ou un boomerang, ça ressemble pas mal à un triangle, dans le fond, tu sais. C'est sûr que c'est pas un triangle, c'est plus comme un L d'une drôle de façon, mais je veux dire, c'est quand même triangulaire comme forme. Mais il n'en parle pas de ça. Puis, deux semaines après, c'est sûr qu'il y a eu le fameux cas de Roswell, puis là, on ne rentrera pas là-dedans. Il y a plein de détails là-dedans, mais je veux dire, c'est ça qui a réellement mis en valeur l'expression « soucoupe volante » au niveau de la masse, même si la presse avait repris l'expression d'Arnold. Parce qu'il y a de nombreux témoins de la scène, puis comme je disais tantôt, les détails de ces témoins. Regarde, on oublie ça, là, on ne parle pas du cas de Roswell, là. Ils font littéralement mention de la forme de deux soucoupes retourner l'une sur l'autre. T'sais, ça a mis le feu aux poudres réellement dans la masse, parce que dans les années suivantes, là, tous les témoignages d'OVNI, c'est une soucoupe volante. C'est cette forme-là qui domine les observations d'OVNI pour une ou deux décennies même. T'sais. C'est juste plus tard qu'on commence à voir d'autres choses. C'est ce qui m'amène à me poser la question suivante, parce que en 2022, on peut toujours observer des soucoupes volantes. On dirait qu'en 70 ans, l'OVNI type, ça n'a pas l'air d'avoir évolué, ça. Pourquoi? Je le sais qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs autres formes, puis j'y reviendrai pour plus tard. Mais pour le moment, si on se met juste à réfléchir à ça, tu sais, un exemple, quand on change régulièrement d'auto, là, on a un nouveau modèle meilleur et amélioré, puis en plus, les véhicules comme ça, ça a une durée de vie, tu sais. En 70 ans, là, l'automobile puis l'avion, là, ça a subi des transformations physiques énormes au niveau de la technologie puis des performances. T'sais. Si on parle juste du biplan des frères Wright en passant par le Concorde jusqu'à SpaceX, il est évident qu'on ne peut pas faire autrement que de remarquer une archi-super débile grosse évolution de ces engins-là. Puis, tu sais, c'est palpable, là, c'est pas... Il y a de l'air à avoir de quoi qui a changé un petit peu, tu sais. Mais ça n'a pas de l'air d'être le cas pour la soucoupe volante type, tu sais. C'est clair qu'on ne peut pas avoir ces objets-là dans nos mains pour comparer l'évolution, mais si on se fie juste aux descriptions en général, en 2022, on voit toujours la soucoupe volante des années 50 qui fait plus ou moins toujours la même chose et plus ou moins de la même façon. Puis on remarque également que la boule lumineuse est également toujours d'actualité, même si le palmarès d'observation d'OVNI a quelques petites différences, là. C'est toujours ces deux formes-là qui font pas mal l'OVNI type. T'sais, c'est spécial, ça. On peut évidemment spéculer à fond sur cette question-là. T'sais, ça peut aller du voyage temporel en passant par les univers parallèles jusqu'à une hypothèse qui peut stipuler que lorsque le modèle est parfait, on n'y touche plus. Si la forme est optimale, alors pourquoi la changer? Ben, si c'est le cas, puis si c'est réellement la raison du manque de changement, là, pourquoi qu'on parle d'observation de triangles, de tubes, de rectangles, de pyramides, etc., t'sais? Là, on entend encore dans le monde des spéculations, puis du « je pense que », mais tu sais, tant qu'à spéculer, pourquoi qu'on ne parlera pas des multiples races provenant de plusieurs endroits ou de dimensions différentes dans l'univers, tu sais? D'après certains, on serait visité par plus de 90 races d'extraterrestres différentes. Par contre, à ce que je sache, on ne trouve pas 90 modèles différents d'OVNI dans la masse de rapports d'observation disponibles. Oui, dans l'histoire, il y a plusieurs rapports qui décrivent divers styles de soucoupes volantes affichant des attributs un peu à part, mais à la base, la forme générale de l'objet demeure quand même une soucoupe volante dans le vrai sens du terme. Puis ça, c'est pour une majorité d'observations, même si, comme je disais tantôt, il y a des tubes, des triangles, des pyramides, des boîtes, tout ce que tu voudras. Mais logiquement, il est fort peu probable que différentes races d'extraterrestres provenant de différentes planètes utilisent la même modèle d'OVNI, tu sais. Ou est-ce que la forme parfaite aurait été découverte ou adoptée par plusieurs civilisations? Possible que cette forme parfaite soit l'ultime réponse à certains problèmes de propulsion ou d'aérodynamisme qui nous échapperaient encore toujours à nous autres ici, là, t'sais, nos pauvres petits terriens. Donc, en ce qui a trait aux descriptions, est-ce qu'on assiste à un manque d'informations ou à une sorte d'amalgamation du catalogue de témoignages engendré par la même masse de témoignages qui influencerait possiblement les récits des témoins? C'est une bonne question, ça. Tout le monde le sait que suite à une observation d'OVNI, la majorité des témoins vont se mettre à chercher de l'info un peu partout pour tenter de corroborer ce qu'ils ont vu, t'sais. C'est de là que peut venir une possible influence de description, t'sais. Puis ça, c'est sans parler de ce que je mentionnais au tout début de chronique en rapport avec l'interprétation personnelle du témoin. Surtout que habituellement, il y a toujours un énorme délai entre le moment de l'observation puis le moment où ce que le témoin va décider de finalement sortir puis faire son récit. T'sais. Il y a donc le temps de se faire une image mentale qui lui plaît de son observation sans s'en rendre nécessairement compte puis en étant toujours de bonne foi pareil. T'sais. Donc, dans le fond, au final, quoi qu'on fasse, on s'en sort pas. Tu sais, je veux dire, il y a de l'interprétation de A à Z, puis on est obligé de vivre avec. Tu sais, si on prend la première guerre du Golfe, là, les Américains ont sorti au grand jour au moins deux de leurs modèles d'avions triangulaires, le Bombardier B-2 puis le chasseur F-117. Il y en a probablement certainement d'autres, là, des drones, des choses comme ça, mais mettons qu'on prend juste ces deux-là, tu sais. Arnold, qu'est-ce qu'il a vu au-dessus du Mont-Rainier? Si on prend juste le Bombardier B-2 des États-Unis, c'est vraiment pas mal la même affaire. T'sais, c'est un chevron avec une gnole dans le milieu, si on peut dire ça comme ça. C'est un triangle. Personnellement, j'ai réellement vu un triangle. Mais il est facile de constater que depuis les années 90, la guerre du Golfe, on assiste à une émergence assez marquée d'OVNI à la forme triangulaire. C'est une coïncidence ou une influence? T'sais, on peut se le demander, t'sais. Mais au final, l'œuf de Lonnie Zamora aux États-Unis, le triangle belge, la petite pyramide de Rendlesham, les chevrons d'Arnold, la soucoupe volante de Roswell puis de Mikalak, c'est toutes des formes associées à l'ufologie depuis le début. Mais, comme j'ai dit tantôt, la soucoupe volante est prédominante avec la boule lumineuse, t'sais. Mais, garde, on peut juste parler pour parler aussi, puis émettre une hypothèse, même si c'est juste pour le fun, tu sais. Si on veut réellement comparer la soucoupe volante des années 50 à celle d'aujourd'hui, on pourrait se demander, ça se pourrait-tu que ces extraterrestres-là, ça soit en fait des voyageurs du temps? Puis là, pour dire des niaiseries, ça pourrait être simplement des élèves de première année de cégep qui viennent et reviennent dans le temps pour recueillir des données puis des échantillons terrestres pour alimenter leur présentation orale de fin de session. T'sais. C'est con, mais dans un monde parfait, ça se pourrait peut-être. Il se pourrait aussi que ce soit nous autres qui reviennent dans notre passé pour voir tel ou tel événement, parce que si on remarque comme faux, on a souvent pu observer des ovnis lors d'événements marquants de l'humanité comme des guerres ou des cataclysmes. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais en général, les extraterrestres, les êtres de ces objets-là, ça ne nous ressemble pas beaucoup. » Ben, au départ, oui, il y a des témoignages assez nombreux même d'êtres presque humains. Puis, il ne faut pas oublier non plus que uniquement depuis les 400 dernières années, l'homme a physiquement pas mal changé, tu sais. On est déjà beaucoup plus grand qu'avant, puis qui peut dire à quoi l'homme va ressembler dans 400 ans, tu sais. Ça aussi, c'est con, mais dans un monde parfait, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais tu sais, comme disent les Anglais, on veut dire « food for thoughts ». Tu sais, on peut y réfléchir. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ma petite réflexion sur la soucoupe volante. On se revoit dans deux semaines pour une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Merci beaucoup tout le monde.